Cube Radio. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller.
Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
Sophie Durocher.
Tout un spectacle radiophonique.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi j'ai de la chance parce que en studio, j'ai une vedette. Une vedette. Rien de moins qu'une vedette. J'ai avec moi Freddy Dufour, il est personnificateur de Michael Jackson. Et j'avoue que quand je suis arrivée dans le hall d'entrée de Cube Radio ici, et que je vous ai vu, Freddy, j'ai comme pris un petit pied, un pas de recul. Ben, je me suis dit, vraiment, quand même, il y a une ressemblance. Alors, bonjour.
Ben, merci beaucoup. D'abord, bonjour, ça va bien.
Freddy, vous avez l'intention, dans quelques jours, de battre le record Guinness, le plus long moonwalk. Vous voulez battre le record qui est en ce moment de 2h30. Oui. Ça vient d'où, cette fascination-là pour Michael Jackson?
Premièrement, je viens d'une famille de musiciens. Donc, j'ai grandi dans la musique de tout genre. J'étais fan autant que mon père m'a montré du Elvis, du Stevie Wonder, de tous ces styles-là. Autant années de 60, 70, 80. D'accord. Ma mère était fan de Michael, comme toute demoiselle qui était fan de Michael dans ces années-là. Là,
les demoiselles, les demoiselles, tout le monde.
Oui, oui, c'est ça. Ben oui, ben oui. Mais elle avait le poster là, de Thriller, puis c'est ça. Bon. Mais voilà, donc j'ai grandi là-dedans. Puis quand Michael est décédé, j'étais dans une phase un peu dépressive de ma vie.
D'accord.
Très difficile.
Ça, c'est moins
une intimidation
drôle.
À l'école. Oui. D'ailleurs, je me suis fait fracturer le nez. Toutes des choses comme ça, fait que c'était pas évident,
ouais.
Pas le fun. Puis par après, ben quand j'ai atteint le fond du baril, qu'on pourrait dire, là, Michael il est décédé pratiquement en même temps. Fait que c'était comme un bon timing en même temps, ça, on va dire ça comme ça. Comme ça
vous là. Êtes comme identifié à Michael Jackson, on pourrait dire
je
ça?
Je me suis mis plutôt à regarder ses livres, ben, écoutez, à lire ses livres, que je dirais, un livre qu'il avait fait écrire de sa main, par exemple, qui s'appelait Moonwalk, l'autobiographie de sa main. Dans ce livre-là, il explique tout son cheminement puis sa pensée. Puis ces valeurs-là en question, quand j'ai vu ces valeurs, j'ai compris que ça me ressemblait, ça me parlait. Puis de où que je venais, du lac Saint-Jean, je me sentais plus compris par lui que par les gens de où j'étais.
Je comprends. Par contre, si je peux me permettre,
allez-y.
En tout respect, Freddy, il y a
allez-y.
Quand même un certain nombre d'allégations qui n'ont pas été prouvées,
oui.
Bien sûr.
Non, non.
D'allégations de pédophilie, mm-hmm. De contacts sur des très jeunes enfants.
Oui.
Des détails assez sordides.
Oui.
Comment, dans votre amour de Michael Jackson, qui est tout à fait légitime pour l'artiste, comment vous réconciliez ça avec ces allégations-là concernant Michael
premièrement,
Jackson.
Pour vous expliquer comment je t'ai rendu, c'est juste dans le fond, j'ai fait tout puis pratiqué durant 13 ans de ma vie pour me rendre jusque-là. Puis quand arrivé en 2019, justement, avoir fait plein de gigs, lesquels j'ai tout arrêté. À ce moment-là, ça a tout été bloqué. Moi, là, on a tout arrêté,
ah,
one
oui.
Shot. J'ai tout perdu.
Parce que donc, pendant des années, vous personnifiez Michael Jackson.
Oui, oui, dans les corpos.
D'accord.
J'ai fait plusieurs centaines de corpos. Là.
Wow.
Après ça, ben, y a pas des spectacles à gauche, pas à droite. Tu te fais connaître à gauche, pas à droite, un petit peu dans des festivals, festivités quelconques, autant au lac Saint-Jean qu'ailleurs. Mais justement, quand arrivé en 2019 à cette situation-là, moi, de mon côté, tout a breaké. Fait que je me suis ramassé à la Denis Lévesque pour en parler.
D'accord.
À ce moment-là, il n'y avait pas encore trop d'informations sur le sujet. C'était encore assez vague, je vous dirais. Donc, ce que j'ai fait, je me suis assis là-bas puis j'ai présenté mon point de vue. Mais depuis le temps, ça a beaucoup évolué. Ce que je veux en venir, c'est qu'il y a eu énormément d'avocats qui voulaient accuser Michael, qui ont changé de speech en bon français, pas français du tout. Mais oui, anyway, qui ont changé de speech au travers de cette affaire-là, qui ont changé d'idée au travers du cheminement qu'ils ont fait de recherche. Autant qu'un documentaire qui s'est refait par après le documentaire de 2019 qui s'appelait Square One. Et ce documentaire-là, par exemple, vient tout démentir ce qui s'est passé par le passé. Il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs de timing, choses comme ça. Puis comme j'explique au monde souvent, moi, je suis pas là pour faire ce que peut-être fait... Ouais, mais je suis pas là pour faire ce que peut-être fait de mal, je suis là pour faire ce que sûrement fait de bien.
Ah, ça, c'est,
voilà.
C'est une bonne formule. Puis si vous, ça vous arrange avec votre conscience, je respecte tout à fait ça. Et de toute façon, ni vous ni moi, on était à... comment ça s'appelait?
Neverland.
Neverland, merci. Voilà. J'allais dire Graceland, mais c'était quelqu'un d'autre.
Non,
donc
Graceland.
À Neverland, on n'était pas dans la chambre pour savoir exactement ce qui
exactement.
S'est passé. Donc, ça restera... Il est emporté, ce mystère-là,
si
dans sa tombe.
Dire, si je peux vous dire quelque chose, par exemple, j'ai parlé avec des gens qui ont travaillé avec. J'ai écouté énormément de podcasts qui sont disponibles sur Internet.
Vous avez fait vos recherches.
Oh oui, vraiment. Puis là-dedans, des gens qui ont travaillé avec durant plus de 30 ans quand même. On parle pas des gens qui ont juste vu Michael ici et là. Là. Des gens qui ont été très proches de Michael. Ces gens-là mentionnent souvent qu'ils ont été dans sa chambre. Sa chambre à Michael, là, c'est pas un ennemi. Là. C'est pas un petit appartement à Montréal.
C'est pas un Schlager Maisonneuve,
on est d'accord.
C'est
ça, mais c'est un grand palace. Fait que la partie de sa chambre, il y avait un cinéma maison là-dedans, il y avait une partie de gaming avec des jeux rétro.
Oui.
C'était pas rétro, là, mais voilà.
Mais
il y avait des choses comme ça. Dans le sens que c'était comme un événement, il y avait un happening. C'était pas un enfant qui arrive dans une
D'accord.
chambre. C'était souvent 12-13 enfants qui venaient jouer. Michael s'endormait avec les enfants, entre guillemets. Puis, après, ben, c'est sûr que là, il y a tout le temps des zones grises de cette affaire-là. Mais si on se fie à l'information que j'ai reçue de mon côté, c'est plus ce côté-là. C'est une tournée de mots, je trouve, qui a été beaucoup amenée de différentes façons.
D'accord. Bon, alors ça, c'est sur le côté plus sombre
oui.
de Michael Jackson, mais je trouvais que c'était important, vu qu'on parle du
oui.
personnage, on peut pas faire semblant que cette partie-là n'a pas existé. Alors donc, vous, pendant des années, vous personnifiez Michael Jackson, et donc, vous avez subi quand même un certain nombre de chirurgies esthétiques. Vous nous dites que parce quand vous étiez intimidé, quelqu'un vous a brisé, fracturé le nez, c'est quand même pratique parce que ça fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est une chirurgie de moins à avoir pour ressembler à Michael Jackson.
Non, même pas. J'avais de la misère à respirer suite à ça.
D'accord.
Ça a duré vraiment longtemps. J'ai pas rien eu par après. Mes parents, dans le temps, on n'a pas. C'est arrivé. Tu vis avec, ça saigne, c'est tout, tu l'arranges.
Mais pourquoi? Comment on arrive à 80 000 $ de chirurgie pour ressembler à Michael?
Je suis à mi-chemin. Pour ça, vous sachiez, je suis à mi-chemin. Le reste s'en vient d'ici, je dirais, environ mai, une prochaine, tout devait être terminé. Mais on est à mi-chemin. Donc, environ 40 000 $ d'investi déjà.
Parce que déjà, vous lui ressemblez quand même beaucoup.
Merci beaucoup.
Vous êtes blanc. Enfin, je présume un blanc du lac Saint-Jean.
Oui.
Puis vous ressemblez à Michael Jackson qui, avec les années, était de moins en moins noir et de plus en plus blanc.
Donc, vitiligo, oui.
C'est voilà, oui, c'est quand même assez particulier.
Oui, voilà. Mais dans le fond, mon côté, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau des chirurgies, fallait que je le fasse faire mon nez. Il n'y avait pas le choix. C'est même pas une discussion. J'ai été voir plusieurs. L'apnée du sommeil commençait. Puis beaucoup de problèmes de mâchoire. Je vais aussi casser la mâchoire. J'ai des problèmes de mâchoire assez sévères. Donc, ça m'empêche de ma prononciation quelquefois. Surtout quand je parle longtemps ou quand je chante longtemps. Ça vient un problème. Donc, il faut que je subisse anyway ces chirurgies-là. Fallait que je les fasse pareil. Fait qu'autant bien les faire dans un domaine où moi, je m'en allais pareil.
T'sais, voilà. Pour ressembler à Michael Jackson.
Et voilà.
Puis je remarque que vous avez du fond de teint.
Oui. Là, oui,
pour
là.
Blanchir votre peau.
Non, c'est mon vrai teint. Non, je suis blanc de même.
Ah, vous êtes blanc de même. OK, parfait. Donc, vous avez les cheveux noirs comme lui. Vous
oui.
avez donc... et évidemment, le moonwalk. Alors, moi, ce qu'on va faire, on est à la radio, mais
oui.
on a aussi des caméras. Donc, je vais vous demander de me donner une leçon de moonwalk.
Parfait.
Alors, on va se lever. Là, pendant ce temps-là, on ne pourra pas parler.
Ça
va faire ce cours. Hein, on ne va pas passer une demi-heure là-dessus.
Non.
Mais juste un cours, le 101 du moonwalk. Donc, vous allez me
parfait.
Le montrer physiquement. Puis après, vous allez venir me l'expliquer au micro.
Here we go.
Allons-y.
Let's go.
OK, facile, pas pareil.
C'est un spin, ouais, c'est bon. Ah, c'est drôle.
Bon, alors, élève du Rocher a évidemment manqué son cours 101 de moonwalk. Alors, donc, c'est combien d'heures de pratique pour en arriver? Parce que pour vous, c'est excessivement fluide.
Oui, mais au niveau de pratique personnelle, au niveau de la danse, on pourrait dire, les gens partant, moi, j'ai pratiqué toute ma vie environ 8 heures par jour, de 5 à 7 jours semaine pour tous les mouvements, pas pour du moonwalk, là.
Oui, oui.
Apprendre à danser comme Michael, je parle. Dans ces vidéos, tu répètes les chorégraphies, les mouvements, un après l'autre.
Parce qu'on peut pas réduire Michael Jackson que au moonwalk.
C'était un danseur
exceptionnel. Et oui. ce, depuis son plus jeune âge.
Oui. Des influences comme Fred Astaire, Bob Fosse, mais évidemment, James Brown, Sammy Davis Jr., qui n'est pas danseur, mais il y avait des belles
oui.
poses. Puis Michael s'est inspiré beaucoup de ça pour ses performances.
D'accord.
Donc, oui.
Donc pourquoi, à un moment donné, vous dites, moi, un petit gars du lac Saint-Jean, je vais aller relever ce défi-là et briser ce record Guinness?
Mais comme je disais tantôt, premièrement, bon, moi, Michael, ça m'a sauvé la vie. C'est même
oui.
je dis souvent aux gens.
Rien
fois,
de moins.
Même à Denis Lévesque aussi, j'avais mentionné un peu la même chose. Il m'avait dit, je sais pas s'il a détruit la vie de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il m'a sauvé la mienne. C'est fait que moi, mon côté, je me sens redevable envers ça, donc première affaire, OK? Deuxième chose, j'ai ce but-là depuis l'âge de 13 ans, puis j'ai 26. Donc ça fait 13 ans de ma vie, c'est la moitié de ma vie déjà que je consacre à ça. Tu sais, fait que moi, c'est vraiment une affaire de tous les jours. L'entraînement qui vient avec ça, autant pour faire Michael que pour le chanter ou peu importe, c'est tout le temps un entraînement continuel. C'est un mode de vie. Tu sais, que ce soit au niveau de la nourriture, pas de boisson, pas de drogue, pas de cigarette, pas rien de ça. En dehors de ça, ben, c'est l'entraînement autant physique que vocal, autant que l'apprentissage, les connaissances, les pratiques, puis les rendez-vous, c'est une histoire, là. Mais voilà. Alors ça, au niveau du Guinness en question, pour
oui.
cette affaire-là, ben, premièrement, c'était pour les 40 ans de Billie Jean. Okay?
Ah,
donc,
bon.
Voilà, ça célébrait bien. Michael était bien fort sur les records Guinness. Il en a battu plusieurs, OK, par rapport aux albums vendus, choses
oui.
comme ça. Donc, je me disais à moi-même, qu'est-ce que je pourrais faire de spécial dans le cadre de Billie Jean pour les 40 ans? Parce que Billie Jean, c'est aussi la première fois que Michael a fait de moonwalk. Donc ça, c'était le 25 mars de cette
année. Faites-nous un petit peu de Billie Jean, d'ailleurs.
Oh, crime. OK. OK. She was more like a beauty queen from the movie scene. I said, oh man, what do you mean? I am the one.
That's non, c'est bon,
c'est bon. Je pourrais réchauffer, mais c'est bon.
Oui,
c'est
non, non, c'est sûr. Que je ne devrais pas vous demander ça. Non, parce c'est correct, que votre voix n'est pas réchauffée.
Mais c'est bien correct. Mais voilà, mais donc... mais oui, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai pratiqué énormément, ouais. 15 km par jour à 20 km par jour de course.
Wow.
Plus les entraînements de jambes. Puis, comme je vous dis, j'ai tout le temps à des différentes places aussi. Si je ne sais pas à quel point ça va être difficile, j'ai aucune idée. Là. Mais je m'y mets au maximum pour savoir, pour être prête à tout.
D'accord. Alors, voilà. Ça va être le 3 juin prochain à la place, oui, de l'Université du Québec. La personne qui détient en ce moment le record, c'est Michael Frank, un homme d'origine, yes, allemande. Mm-hmm. Et comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un officiellement de Guinness Book of Records qui doit être là pour authentifier votre performance?
Dépendamment de la situation qu'on a dans notre cas, à nous, ils nous ont seulement demandé d'avoir quelqu'un qui allait être comme recommandé par le Guinness.
Ah, okay? D'accord.
Puis il va l'attester en question. Il y a un avocat, je sais qu'il va en avoir un avocat dans cette histoire-là. Puis sinon, okay, il y a les danseurs professionnels, bien évidemment, qui vont être là aussi pour pouvoir attester que le mouvement est legit, là, qui est officiel.
Que c'est bien le moonwalk,
que c'est
que
bien
vous
le moonwalk
tournez pas,
qu'on fait le backslide, qui serait le, voilà, vrai nom anglophone du moonwalk. C'est comme le moonwalk, c'est comme le titre un peu...
D'accord. Voilà. Alors, vous connaissez l'humoriste Mario Tessier?
Ben oui.
Avez-vous vu ce qu'il a écrit à
ben
votre
sujet?
Ben oui,
j'ai vu ça matin,
bon, alors,
drôle.
Je vais le lire pour les auditeurs qui sont pas au courant. Donc, Mario Tessier, il y a quelques heures seulement, il a écrit « Un jeune homme veut battre un record Guinness et faire le moonwalk pendant 3 heures. Il aime clairement pas danser. Tu vois qu'il fait ça de reculons!
» Ah oui, j'ai vraiment...
C'est génial!
À matin, ma soeur qui me l'a envoyé en plus, oui, puis j'ai vraiment trouvé ça drôle. J'ai passé mon enfance, moi, écouter les 2 minutes, puis ça, oui, d'aller partir à eux autres, des grandes gueules, tout ça, dans la radio, dans la voiture, en montant à l'école.
Fait que ça vous fait quoi de savoir que Mario Tessier fait ce jeu de mots extrêmement drôle à votre sujet?
J'ai ri beaucoup en me levant, puis en plus de ça, par après, ben j'y ai répondu, puis il m'a répondu en plus, il m'a dit bonne chance. Fait que merci Mario si t'entends ça, un gros merci, j'apprécie.
Ben il vous a dit bonne chance. Mais ça marche pas. Mais dans le milieu du show business, faut pas dire bonne chance, parce que ça porte malchance.
Pour un spectacle. Pour un spectacle.
Ah,
mais c'est pas un spectacle, c'est une épreuve. Ça passe, ça passe.
C'est correct. Vous allez pas être jinxé, comme on dit en anglais.
Non,
il faudrait pas. Ben écoutez, qu'est-ce qu'on vous souhaite, Freddy, pour le reste de votre carrière? Vous êtes tout jeune, vous avez 26 ans.
Oui,
là, ben, vous commencez dans la vie.
Oui, on travaille. Mais merci. Je travaille sur un concept que plusieurs années que je pense, on m'a dit, je veux vraiment reproduire l'œuvre de Michael comme c'était dans le temps. On trouve que les spectacles aujourd'hui, les hommages sont souvent très stéréotypés. Donc, on veut ramener ça à la source, on veut ramener ça à l'authenticité. Donc, le principe est de créer un spectacle qui, lui, respecte l'authenticité de l'œuvre, autant sur l'aspect des costumes, de l'éclairage, du son et tout. Puis, tranquillement, bien évidemment, commencer à ouvrir d'autres branches sur le long terme avec d'autres personnes qui pourraient faire la même chose que moi, que j'irais chercher. Autant pour Tina Turner, par exemple, qui vient de nous quitter.
Ben oui.
Autant que, mettons, James Brown, des choses comme ça, des Beatles ou Jimi Hendrix, peu importe.
C'est bon.
Donc, c'est ça.
Alors, je vous parle, puis en même temps, je suis en train de me taper sur la tête en me disant pourquoi j'ai pas pensé à la maison. J'ai une poupée Michael Jackson que quelqu'un m'a donnée en me disant écoute, j'ai ça, c'est une pièce de collection, ça doit valoir super cher, mais il n'y a plus personne, la personne en question ne voulait plus avoir ça chez elle, donc j'aurais dû vous l'amener.
Mais j'aurais aimé ça en plus, ça aurait été.
Ben, vous me l'auriez peut-être acheté, peut-être j'aurais fait plus d'argent. Valait le prendre sur eBay, moi.
Ah oui, ben pour vrai, ça se vend quand même
après.
Cher. Oui? Ça se vend quand même cher. Oh, il y en a qui se vendent. J'ai vu ça à 800$ à un moment donné.
Ah ouais.
Fait quand même, 800$ pour une figurine, ça commence à faire.
Ça commence à faire, surtout qu'il y a des petites chaussettes
tout en linge.
Tout
avec
ça, là, oui,
pas la vie qu'il y a, mais il y a sûrement un habit sur le dos.
Il est habillé. Ça, c'est
OK, c'est beau. On n'aime pas ça, les Barbie tout nu, c'est correct, ça.
Ah, mais surtout Michael Jackson tout nu.
Non.
On ne veut pas voir ça. Hey, merci beaucoup,
Freddy. Merci
ça
beaucoup.
A été vraiment un immense plaisir. Freddy Dufour, donc vous êtes personnificateur de Michael Jackson. Puis on vous dit plutôt merde pour battre ce record Guinness. Merci beaucoup.
Un gros merci. Bye-bye.
Sophie Durocher.
Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Culture, tendance et société. Patrick Delisle-Crevier.
Patrick, moi j'adore les gens qui ont connu d'immenses succès avec des chansons et qui prennent ces chansons-là et qui les réinterprètent et t'as l'impression que c'est même plus la même chanson.
Oui, c'est le cas de Gabriel des Trois Maisons qui nous présente ces jours-ci une nouvelle version de Etc., son succès des années 2000. Et donc, c'est pour souligner ses 40 ans. Et effectivement, on est en mode guitare-voix, un tout autre univers, mais quand même ce grand, grand, grand succès est de retour dans une toute autre forme. Et écoutons-en un petit extrait, Sophie.
Plus de remise en question, j'ai plus envie de suivre les indications. Now, plus envie de faire comme il se doit. C'est terminé, c'est décidé. Je fonce droit sur toi, bébé, quand tu danses les choses que je pense.
C'est parti, mais c'est magnifique, absolument superbe. Ça frôle l'indécence. Moi, c'est tout le... Surtout quand t'as dit on va faire du etc. Là. Est-ce que c'est comme ça que quand tu proposes la chose à ton mari, tu dis viens-t'en, on s'en va faire du etc.?
Je vais essayer ça ce soir et je vais te donner...
Tu me donneras des nouvelles. Donc, ben écoute, ça a été quand même la chanson marquante. Puis écoute, cette chanson-là, dans les karaokés, c'est le gros délire, là.
Oui, puis c'est complètement... C'est un succès des années, du début des années 2000. Et Gabrielle des Trois Maisons, je me souviens, à l'époque, c'était énorme. Elle était à la fureur. On la voyait souvent. Elle était partout. C'était la chanteuse de l'heure. Et donc, mais bon... On sait comment ça fonctionne, Sophie. Aujourd'hui, notre sujet, c'est d'ailleurs ça. On parle aussi de Claudine Mercier. Ce succès est éphémère et après ça, bon, ça descend un peu. Il y en a qui reviennent, il y en a qui reviennent le temps d'une chanson ou quoi. Donc, aujourd'hui, on parle un peu de ça. On consomme rapidement nos vedettes au Québec et souvent, on les relègue aux oubliettes ensuite. Et espérons que ce ne sera pas le cas pour Gabrielle des Trois Maisons, qui, quand même, n'a jamais cessé de chanter, il faut le dire. Gabrielle continue de gagner sa vie avec la musique et tout, mais c'est certain, bon, qu'à un certain moment, l'étoile brille un peu moins et les albums sont moins présents. Ça fait quand même quelques années qu'elle ne nous présente pas de nouvelle musique, mais croisons-nous les doigts pour qu'elle le fasse. Et cet été, elle va être au théâtre Hector Charland, sur scène avec d'autres chanteuses pour le spectacle Nos icônes. Alors, oui. Allons encourager Gabrielle des Trois Maisons.
Allons encourager nos icônes. Et justement, quand on parle d'icônes dans le domaine de l'humour, Claudine Mercier a été une icône. Et elle a accordé, puis ça vaut la peine de le signaler quand nos collègues font des bonnes choses. Excellente entrevue avec Claudine Mercier dans le journal La Presse. Et moi, j'ai été complètement chavirée parce que, par le recul qu'elle a sur le métier, elle a maintenant dans la soixantaine, et son détachement par rapport à l'humoriste qu'elle a été.
Oui, puis surtout cette non-envie de refaire ce métier-là. Il n'est pas question pour Claudine Mercier de reprendre les spectacles d'humour. Il faut dire quand même qu'elle va être au théâtre cet été. Au théâtre d'été, elle fait une toute nouvelle expérience et tout. Donc, on va revoir Claudine Mercier, mais la comédienne cette fois-ci. Et effectivement, quand on lit ce texte-là, tu te dis, hey, mon Dieu, OK, cette fille-là a fait cinq spectacles, cinq tournées, et finalement, elle met une croix là-dessus. Elle sera, tu sais, on peut dire l'anti-star, Sophie.
Ouais.
Elle ne jouait pas ce jeu-là et tout. Et c'est quand même étonnant parce que Claudine Mercier, elle aussi, c'était une méga star.
Absolument.
De l'humour. Il y avait Lise Dion, il y avait Marie-Lise Pilote et il y avait Claudine Mercier qui était capable d'être drôle, mais aussi d'imiter nos grandes voix. Et donc, c'est quand même étonnant qu'on sait qu'avec la carrière qu'elle a eue, quand on sait qu'elle n'est plus intéressée à faire à nouveau, puis non seulement, elle a l'air même terrorisée à l'idée de le faire.
Ouais.
Alors, c'est quand même, c'est presque émouvant de voir ça. Et tu dis, mon Dieu, elle n'a pas du tout... on avait l'impression qu'elle s'amusait sur scène et tout, mais finalement, quand on creuse un peu, et cette entrevue-là... très humaine, cela dit, nous prouve carrément le contraire. Et donc, des fois, on se dit, OK, on a l'impression que nos artistes aiment faire de la scène, mais c'est peut-être pas tout le monde. Et, bon, Claudine en est la preuve, mais on va pouvoir la voir au théâtre. Elle explore une toute nouvelle avenue, et souhaitons lui bonne chance avec ça. Et, ben, bon, quand on lit l'article, elle a quand même lancé quelques imitations à notre collègue journaliste avec Sonia Benezra, les Oitiers, etc. Chose qu'elle fait merveilleusement bien.
Ouais.
Mais ça nous amène quand même à nous poser des questions sur à quel point, bon, Claudine, elle le dit, elle ne s'en cache pas. La dernière tournée, elle a eu peine à vendre des billets. et elle a eu l'impression que son public était passé à autre chose. Et donc,
c'est pas facile. C'est pas facile. Non. Elle dit quand même qu'elle a vendu 40 000 billets. Donc, aujourd'hui, ça nous fait un peu rigoler. Mais qu'elle dise qu'elle n'a vendu que 40 000 billets, aujourd'hui, ça nous paraîtrait peut-être énorme. Mais pour les dates, pour l'époque, c'était autre chose. Et surtout, c'est important de le rappeler parce qu'on entend toujours parler, il n'y a pas assez de femmes, Ben, je m'excuse, mais il y a une époque au Québec où les grandes vedettes en humour, c'était des femmes. C'était Claudine Mercier, c'était Lise Dion, c'était Marie-Lise Pilote, elles raflaient tout sur leur passage et donc quand on dit aujourd'hui, tu sais, comme mettons quand Catherine Levaque fait anime le gala des Oliviers, puis que c'est comme si mon Dieu, enfin le milieu arrête d'être un milieu macho puis fait de la place aux femmes, faut quand même relativiser, c'est un petit peu simple comme raccourci. Alors écoute, on a très hâte de voir Claudine Mercier monter sur scène dans un rôle complètement différent que celui auquel elle nous a habitués. Puis on a très hâte aussi de voir Gabrielle des Trois Maisons en spectacle cet été. Donc, comme quoi, on peut faire des retours dans la vie, puis on peut tout ce qui est vieux et nouveau à nouveau. Merci beaucoup, Patrick.
À bientôt, Sophie.
La rencontre Nantelle du Rocher.
Non, c'est pas une joke.
Sophie Durocher.
Duduche, elle va se défendre.
Guy Nantel.
Ben, c'est exactement ça qu'il faut faire.
Un duo déstabilisant qui confronte les idées.
C'est à s'arracher les cheveux sur la tête.
La rencontre Nantel-Durocher.
Ça va être quelque chose. Guy, habituellement, je suis assez bonne en mathématiques. Tu sais, je suis assez bonne pour faire 2 plus 2 égale 4. Mais quand j'ai un gouvernement qui me dit à 50 000 immigrants par année, c'est suicidaire, puis que le même gouvernement, quelques semaines plus tard, nous dit, bon, on veut augmenter le seuil d'immigration à 60 000, je me gratte la tête en me disant, coudonc, on a-tu la même calculatrice, le gouvernement, puis moi?
Ouais, ben regarde, moi je veux bien être ouvert d'esprit, puis je vais l'essayer là, 60 000, avec par exemple comme condition la condition du français avant d'immigrer. Sauf que oui, il y a plusieurs problèmes qui se posent avec la proposition de la CAQ. Puis d'abord, on va rappeler une chose qu'on fait souvent ici, c'est que les taux d'immigration sont 2 fois plus élevés chez nous qu'en France ou qu'aux États-Unis, par exemple. Et donc, Legault, lui, avait promis, à cause de ça, de réduire de 50 000 à 40 000. C'était ça, sa proposition de départ avant les élections. Et là, il annonce que non seulement la diminution n'aura pas lieu, mais qu'il va augmenter à 60 000. Donc, c'est 50 % de plus que le 40 000 qu'il voulait. Sauf que ce qu'il dit, c'est qu'il va donc faire rentrer des francophones et comme ça, le problème va être réglé. Ce qui est faux, parce que Legault, d'abord, s'est couché devant le conseil du patronat qui veut juste faire rentrer de la main-d'œuvre bon marché. Puis la preuve de ça, c'est que certains immigrants, on leur exige un niveau 7 de français, et c'est sur une échelle de 12, ceux qui connaissent pas l'échelle. Donc 7, là, c'est juste la note de passage. Et pour plein d'autres, la note, ça va être 5, ce qui va suffire pour rentrer ici. Mais 5, t'es pas capable d'entretenir une conversation. Alors, en quoi l'emploi doit déterminer le degré de français auquel on souhaite s'attendre des immigrants? Je veux dire, on veut pas des employés francophones, on veut des citoyens francophones. Une autre affaire, ce ne sera pas 60 000 par année, Sophie, parce que ceux qui passent par le programme d'expérience québécoise ne sont pas comptabilisés là-dedans. Alors, en ce moment, c'est 8 à 10 000 personnes par année. Donc, ce 60 000-là, il va facilement, parce que ça pourrait monter, ça peut être 10 000, 20 000, donc il va facilement être 70 000, 80 000. À ça, il faut que tu rajoutes les 300 000 immigrants temporaires qui sont présentement au Québec et qu'on compte jamais parce qu'on n'a pas de contrôle, c'est le fédéral. Et vous savez ce que le fédéral fait pour s'entêter à refuser les demandes des francophones depuis un bon bout de temps. Et en plus de ça, tu as les demandeurs d'asile, les réunifications familiales sur lesquelles on n'a aucun contrôle, et aussi l'immigration interprovinciale qui viennent souvent en Ontario, unilingue anglais en vaste majorité. Fait que, alors on se pose la question, est-ce que le français va sauver la nouvelle politique, va être sauvé par la nouvelle politique de la CAQ? Ben, moi je pense poser la question, c'est y répondre.
Oui, mais tout à fait, tu soulèves d'excellentes questions, puis je suis contente qu'on puisse ces jours-ci, parler d'immigration plus calmement, puis je dis pas que habituellement tu n'en parles pas de façon calme, c'est pas toi que je vise quand je dis ça, c'est juste que tu te souviens, quand on était en période d'élection, à quel point tout le monde, et je dis vraiment tout le monde, était grimpé dans les rideaux, et je me souviens de débats, par exemple, au Monde à l'envers, où c'était très difficile d'avoir une discussion calme sur ces questions-là parce que c'est très polarisant et c'est dommage que le gouvernement de la CAQ, les candidats de la CAQ, puisqu'on était en période d'élection, se faisaient accuser. Bon, faut dire qu'il y avait eu la sortie du ministre Boulay qui était pas forte non plus, mais se faisaient accuser je trouvais que d'un côté, on démonisait l'immigration, de l'autre côté, on la banalisait. C'était difficile de trouver des voix plus mitoyennes ou des plus conciliantes. Et c'est pour ça que c'est intéressant maintenant, avec quelques mois de recul, de pouvoir se pencher sur ces questions-là de façon plus raisonnable, mettons.
Mais sauf que là, la tension va remonter parce que c'est là, c'est aujourd'hui que ça commence, là, l'application de la nouvelle loi 96.
Absolument. Et
alors
écoute,
là, ça va brasser.
Ça a déjà commencé. Alors moi, je suis, parce que j'ai plusieurs amis dans la communauté anglophone, et donc je les suis sur leur compte Twitter, sur leur compte Facebook. Alors ça arrête pas, parce que je te donne un exemple. Si t'appelles le 311 et que tu veux, donc normalement évidemment tous les services du gouvernement sont en français, si tu veux avoir les services en anglais, il faut que tu correspondes à certains critères. C'est ça que prévoit la loi 96. Alors il y a des collègues anglophones qui ont enregistré le message du gouvernement quand t'appelles le 311. Et ça commence déjà, pas les journalistes eux-mêmes, mais des gens qui commentent en disant « Oh, on le sait bien, le gouvernement québécois est un gouvernement fasciste et tout ça. »
Ouais, on a l'habitude de ça.
Ah
hein?
non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est déjà commencé. Il y en a d'autres qui disent que c'est complètement surréaliste, parce que même si tu vas voir sur le site du gouvernement que tu vas avoir de l'information autre que de l'information en français, il faut que tu correspondes à certains critères pour avoir le droit. Et donc, je m'excuse, mais si tu vas dans le fin fond du Manitoba, là, c'est toujours mon exemple. Si tu vas au Manitoba puis tu vas avoir des services en français, il m'a dit, faut que tu te lèves tôt le matin pour en avoir.
Ben oui, mais il faut aussi se demander qu'est-ce que c'est parler français pour le gouvernement de la CAQ.
Oui.
Parce que, tu sais, là, je te le dis, prépare-toi, on rentre dans une comédie burlesque. Parce que, d'abord, je n'ai parlé tantôt, là, il y a bien des gens pour qui c'est 5 sur 12 la note pour être accepté, ce qui correspond pas à la capacité de parler français. Hein. Je l'ai dit, ça, c'est juste connaître quelques mots en français, un peu comme moi, je connais quelques mots en espagnol, mais je ne parle pas espagnol. Ensuite de ça, là, le gouvernement qui accepte les immigrants, là, mais ce qu'on doit savoir, c'est que le gouvernement accepte plus les attestations de ses propres cours de francisation comme preuve que tu peux parler français. Alors, je répète, le gouvernement donne des cours de francisation, et si tu réussis, tu as soit un diplôme qui atteste que tu es maintenant francophone, mais Immigration Québec refuse de reconnaître ce diplôme-là. Alors, ce qu'on accepte, c'est quoi? C'est le fameux nouveau cours qui est faite en France et de France, parce qu'on est trop cabochon aussi pour faire un test ici au Québec. On sait que c'est tellement compliqué de faire ça.
Mais oui.
Puis là, tu rentres dans des questions loufoques que toi-même, ou moi, on échouerait. Parce que hier, Sarah Champagne, une journaliste du Devoir, a passé le test. C'est absolument hallucinant là, ce qu'elle disait. Tu sais, le genre de questions, là, elle disait, par exemple, un moment donné, un lecteur de nouvelles avec un accent français de France qui annonce que le premier greffé du cœur de l'histoire est décédé et sera enterré samedi prochain. Et là, la question pour la personne qui passe le test, l'immigrant, c'est la question qui est posée, c'est est-ce que la nouvelle que vous venez d'entendre fait partie des nouvelles insolites, scientifiques, de la rubrique société ou des faits divers? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas une question de français, c'est une question de logique à laquelle il y a plusieurs bonnes réponses potentielles. Puis même la journée du Devoir a coulé plein de questions. Fait que c'est ridicule.
Oui, tout à fait. C'est très important parce que de parler ce texte-là, parce que ça donne froid dans le dos. Là. C'est complètement délirant.
Ben, c'est comment on sélectionne les immigrants et qu'on les considère francophones. C'est du gros n'importe quoi. Puis la preuve, là, c'est le contraire aussi. Les diplômés étrangers des universités anglophones vont devoir fournir la preuve qu'ils ont déjà étudié au moins 3 ans en français à un moment donné dans leur vie. Alors ça veut dire quoi? C'est que eux autres, là, ils n'auront même pas le droit de passer le test de français comme les autres immigrants. Alors, mettons, je te donne un exemple. Moi, je connais un Français de France, là, tu lui parles sa rue, là, c'est un Blanc qui parle à la française, là, tu sais.
Ouais.
Mais lui, ses parents, à un moment donné, ils ont eu un contrat en Algérie. Il a grandi là-bas, puis il a étudié à l'école internationale anglais en Algérie. Ensuite, il vient ici, il étudie à McGill à Montréal, et là, comme contribuable, on paye une fortune pour l'aider à avoir une formation, et quand il termine, il est automatiquement expulsé du Québec. Il ne peut pas s'établir, parce que lui, il ne peut pas passer le test. Il faut qu'il démontre qu'il a fait au moins 3 ans d'études en français et c'est un francophone parfait. Fait que c'est du maudit niaisage comme bureaucratie. C'est tout croche. Ça montre quoi? Ça montre que la politique de la CAQ, là, c'est de la poudre aux yeux qui aura à peu près aucun impact sur le déclin du français à Montréal parce qu'ils savent qu'il y a juste une solution pour pallier à la disparition éventuelle du français. Mais ça, je dirais pas c'est quoi. La CAQ veut pas en entendre parler. Mais
toi et moi, on le sait. C'est quoi? C'est le mot qui commence par un « i »
Non, le mot,
oui,
ou le mot en S ou le mot en I.
Bon, c'est ça. Donc, c'est soit, toi, t'as pas le droit de le prononcer, moi, je vais le prononcer, indépendance et souveraineté. Exactement. Parce que, les petits amis, on va nous rappeler à tout le monde, la meilleure façon de reprendre le pouvoir sur notre immigration, c'est d'être notre propre pays.
Hein? Ben, la meilleure façon de savoir ce que tu vas manger à l'épicerie, c'est de partir en appartement et de pas laisser papa-maman prendre des décisions pour toi.
Voilà.
Quand tu considères que tu es assez mature pour faire ça, ben, tu peux considérer la même chose comme peuple. Dire, je pense qu'on a été sous la gouverne d'un autre peuple assez longtemps. On a été sous la tutelle comme des mineurs, mais maintenant, c'est à notre tour peut-être de prendre les guides et de choisir des gens qui sont compétents en français. Puis il y en a plein. Je pense qu'on peut sélectionner les bonnes personnes.
Oui, excuse-moi, j'étais interrompu, donc j'ai pas entendu la dernière chose que tu as dit.
Non, mais en fait, tout ce que je veux dire, c'est que c'est pas au conseil du patronat de faire les choix.
Non, tout à fait.
Souverain et mature, on va être capable de sélectionner plein d'immigrants, puis peut-être même plus que 50 000 par année, parce qu'à ce moment-là, on aura le contrôle total sur l'immigration qui rentre au Québec. Puis, mais les Québécois, je pense qu'ils veulent pas nécessairement en entendre parler présentement, ou en tout cas pas avec le gouvernement qu'on a présentement.
Voilà, tu as tout à fait raison. À un moment donné, il faut reprendre les leviers, puis c'est certainement pas au conseil du patronat qui cherche de toute façon juste de la manœuvre bon marché, pour ne pas dire du cheap labor. C'est pas à eux de prendre cette décision-là. Merci beaucoup, Guy Nantel.
Merci, on se parle demain.
Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique, mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
Sophie Durocher.
Marie-Vien est quelqu'un d'extrêmement important dans la vie culturelle au Québec. Elle est scénariste. C'est à elle qu'on doit, entre autres, parmi d'autres films, le scénario du film Arlette avec Marie-Pierre Morin, réalisé par Marie-Lou Wolfe, mais aussi La Passion d'Augustine. Bref, Marie-Vien est importante dans la vie culturelle au cinéma, mais dans la vie de tous les jours, elle vit un scénario absolument épouvantable, un film d'horreur qui se déroule en ce moment dans un CHSLD près de chez vous. Sa sœur qui est résidente de CHSLD n'a le droit à aucune climatisation. Marie Vien est au bout de la ligne. Bonjour Marie.
Oui, bonjour Sophie.
Tu nous avais déjà parlé il y a 2 ans de ça sur les ondes de Cube Radio, des conditions épouvantables de ta sœur en CHSLD en pleine pandémie. Là, on est en pleine canicule. Quelle est la situation de ta sœur en CHSLD?
Alors, comme tu l'as dit, j'ai l'impression de jouer dans un très mauvais film. Hier, je suis allée voir ma sœur, ça faisait 48 heures, j'y vais aux 2 jours. Quand je suis arrivée au rez-de-chaussée, il y avait de la clim, mais quand je suis arrivée dans son unité, dans une unité prothétique, c'est-à-dire une unité fermée, parce qu'elle est Alzheimer précoce dernier stade, c'était littéralement l'enfer. Il faisait tellement chaud. Les malades étaient dans leur chaise roulante, la tête à moins 10, tellement il faisait chaud. Il n'y avait aucun ventilateur. La fenêtre s'ouvre à la hauteur, pas à la hauteur, mais à la largeur d'une longueur de main, si on veut. Aucune ventilation. Je suis allée voir la température de la pièce. Il faisait 31 dans la pièce. Et là, je suis rentrée dans la chambre de ma sœur. Ma sœur était, excusez-moi l'expression, mais en couche, avec son petit t-shirt blanche comme un drap. J'avais appelé le médecin parce que il pensait qu'elle avait eu un malaise, mais non, elle avait eu un coup de chaleur. Alors, je suis descendue chez la directrice, ou en tout cas la madame qui s'occupe des soins. Là, j'ai cogné à son bureau, à sa porte, pardon. Elle a ouvert la porte. Et là, j'ai fait « Waouh, c'est frais dans votre bureau. Elle dit « Vous trouvez? C'est bien, on est bien. » J'ai dit « Ben oui, mais l'enfer est en haut. »
L'enfer est en haut.
Oui, l'enfer est en haut. Mais vous avez, alors, tous les bureaux administratifs sont tous climatisés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est à l'intérieur du CHSLD, comme dans d'autres CHSLD, il y a des problèmes de climatisation et ou de ventilation. Dans le cas de l'unité de ma sœur, il y a les deux problèmes. Mais personne a pensé même de mettre des ventilateurs portatifs dans la salle commune.
Ça, c'est absolument, absolument hallucinant. Puis Marie, si tu permets, on s'est parlé, toi et moi, on a eu une conversation privée ce matin, et tu me racontais que tu étais allée toi-même au Canadian Tire et tu es allée avec ton propre argent acheter une unité de climatisation parce que tu t'inquiètes pour les lendemains pour ta sœur. Elle peut pas passer tout l'été dans une chambre où il fait 31 degrés.
Ben non, c'est exactement ça le problème. Et puis, ça fait 2 ans que je demande à chaque mois, Sophie, 2 ans, c'est rendu mon dossier, mon cheval de bataille. Et je dis, qu'est-ce qui va arriver? On est au mois de janvier, là, l'été s'en vient, on a besoin de ventilation. Oui, oui, la requête est dans le système.
La requête est dans le système. Oui, vas-y, continue. Ouais. Je suis outrée,
mais là,
Marie.
Je démarre pas, je décolère pas, mais en fait, c'est qu'est-ce qu'ils attendent? Un mort? Je veux dire, parce que c'est ça qui va arriver. Et là, moi, je suis comme l'ambassadrice des aidantes naturelles du CHSLD Vigie-Reine-Élisabeth, mais il y en a d'autres CHSLD qui vivent la même situation. Puis Madame la ministre, là, elle sait pas vraiment ce qu'elle dit. Parce que c'est vrai qu'il y a des aires de climatisation, OK? Par exemple, eux, ils ont des problèmes de ventilation, comme si je le savais pas. Elle me dit ça ce matin, la fille. Mais oui, vous savez, je vais vous présenter le spécialiste de la ventilation. Mais c'est parce que moi, je veux pas faire un bac en ventilation, là. Moi, je veux que le problème se règle. On est en mode action. Je veux dire, ça prend des climatisateurs portatifs. Ça prend des ventilateurs. Alors là, finalement, tantôt, je suis allée ce matin. Là, la madame, je sais pas qui son titre, là finalement, elle est arrivée avec un autre ventilateur. Mais il faut faire des crises pour que ça marche.
C'est
incroyable. Pour me faire dire, mais ne vous inquiétez pas, on a envoyé la directrice des loisirs avant-hier leur donner de la crème glacée.
Ben, tu me niaises. De la crème glacée, comme si ça allait régler le problème. Un petit popsicle avec ça, un petit chausson aux pommes aussi, tant qu'à y être. Mais quelle condescendance!
De rester calme, là. Donc, mais madame, responsable des aînés, là, je suis tellement pompée.
Sonia Bélanger. Alors, elle s'appelle oui. Sonia Bélanger. Elle est la ministre responsable des aînés. Et nos collègues ici à Cube ont contacté son ministère. Donc, c'est possible qu'au cours des 24 prochaines heures, à la suite de ton témoignage, Marie, qu'il y ait une réaction. C'est ce qu'on souhaite, en tout cas, qu'il y ait une réaction du politique parce que c'est inacceptable. Et je vais le dire parce que toi, tu ne décolles pas, mais depuis que tu m'as raconté ton histoire, Marie, je ne décolère pas non plus et je suis sûre que tous les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent en ce moment ne décolèrent pas. C'est pas normal qu'en 2023 on traite comme ça les gens qui sont les plus vulnérables dans notre société et surtout quand tu nous décris que, évidemment, eux, dans leur beau bureau, ils sont climatisés. Quand je t'ai parlé...
Mais attends, oui. excuse-moi, je fais une parenthèse aussi, là. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, je me souviens plus qu'est-ce que je voulais
dire. Tu voulais me parler de la douche, peut-être, quand t'as demandé si...
Non, ça aussi, c'est le comble de l'ironie. Mais ce que je voulais dire à Madame la ministre, en fait, je l'interpelle, c'est que Madame la ministre, ces gens-là sont Alzheimer. Ils ont pas de voix. Ils sont pas capables de parler. Ils sont pas capables de dire « j'ai chaud ». Ma sœur, elle peut plus parler. Elle est pas capable de dire « j'ai soif ». Ou elle est couchée, ou elle marche toute la journée dans le corridor parce qu'elle est rendue au stade 7 de la maladie. Donc, ils sont pas capables de sortir les Alzheimer pour les amener dans une pièce climatisée. Oui. Fait que ça marche pas, son plan. Puis en plus, c'est un fort pourcentage de personnes qui souffrent de démence ou de Alzheimer qui sont dans les CHSLD. Fait que ça marche pas. Et on a besoin de climatisateurs à l'intérieur. Et là, mon autre plan, excuse-moi, je suis tellement pompée. Mon autre plan, ça serait d'inviter M. Legault, M. Fitzgibbon, puis M. Dubé, c'est des hommes d'action, ça, avec Mme la ministre et le propriétaire aussi du CHSLD, à venir luncher dans cette aire, dans cette unité prothétique, à 2 heures l'après-midi, quand il n'y a pas de rideau dans les fenêtres, puis que le soleil plombe, pas de clim, des fenêtres fermées, puis pas de ventilateur, puis venez manger un beau petit plateau qu'on va vous servir du CHSLD, des petites patates frites, une petite boulette frite, puis là, on va s'asseoir, puis on va rester là pendant 2 heures. Ça va se régler, le problème, Sophie.
T'as tellement raison, Marie, puis je propose aussi qu'ils fassent un petit séjour dans une des chambres et qu'on leur enlève les vêtements, puis qu'on les mette dans une couche, puis qu'on voit combien de temps ils vont tenir dans une couche à 31 degrés. Je veux que tu nous racontes l'histoire de la douche, Marie. Raconte-nous ce qui s'est passé quand t'as demandé.
Quand j'ai vu ma sœur hier, qui a un coup de chaleur blanche comme un drap, j'ai dit le mieux, ça serait de lui donner une douche. Mais c'était pas son jour de douche. Son jour de douche, c'est le lundi et le vendredi. Fait que quand c'est pas le jour de douche, mais on peut pas les amener aux douches parce qu'il y a pas de préposés. Puis c'est pas les préposés que je questionne.
Non,
ici,
je le sais, Marie.
Parce qu'hier, hier là, ces femmes-là, là, ils étaient dans l'enfer. Ils faisaient 31 à 8 heures le soir. Est-ce qu'on peut s'imaginer pour ces préposés ce que c'est de vivre dans cette chaleur? Pas d'air, pas d'air. Je veux dire, on est au Québec.
Marie, c'est un des plus gros scandales que depuis que je fais de la radio. Là, c'est quand on s'était parlé de ta sœur, il y avait eu des contreplaqués pour l'empêcher sur sa porte, pour l'empêcher de sortir de sa chambre. C'était un scandale. Mm-hmm. On se reparle 2 ans plus tard, Marie, et c'est encore un scandale. Comment tu fais pour ne pas te décourager puis pour continuer, pour trouver la force de continuer à te battre pour ta sœur Dominique?
Ben, j'ai pas le choix. Je suis tellement indignée de ce que je vis de moi en moi. Il y a toujours une nouvelle surprise qui nous attend. Il faut pas baisser les bras. Il faut se battre pour ceux qui sont pas capables de se battre. Il faut avoir une voix pour ceux et celles qui en ont pas. On peut pas laisser des vieux, des malades crever de chaleur, pas de ventilation, pas de rideaux dans les fenêtres, le soleil qui plombe. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens que je dise à une directrice de CHSLD, réveillez-vous. Ça n'a pas de sens qu'hier, il n'ait pas pensé à mettre au moins des ventilateurs. Ça n'a pas de sens que le propriétaire soit pas capable d'appeler un ingénieur pour dire « Vous allez m'installer un climatisateur portatif. » Là, le propriétaire, il était disposé à me rencontrer. Je suis rendue tellement mauvaise.
Ben oui, c'est sûr. À partir du moment où ils savent que tu parles aux médias, là, tout d'un coup, tout le monde veut te parler. Marie, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Oui. Mais je te fais la promesse solennelle qu'à Cube, on va tout mettre en branle, et c'est déjà commencé avec mes collègues qui ont lancé des perches. On veut une réaction politique à cette situation-là. On veut, mes collègues aussi du Journal de Montréal, Journal de Québec, on est tous derrière toi. On veut que cette situation-là change, pas seulement pour ta sœur Dominique, mais des Dominique Vient. Oui. Il y en a plusieurs au Québec, et c'est inacceptable. Oui. Et c'est inacceptable.
Ça s'appelle Action Maintenant. C'est le début de l'été. C'est maintenant que ça se prend des décisions. C'est pas la semaine prochaine, c'est tout de suite. Il faut que la ministre intervienne.
Tu as tout à fait raison.
Elle est dans les CHSLD. Oui. Je vais l'inviter, je vais l'accompagner, moi. Ça va me faire plaisir.
Ben, l'invitation est lancée à la ministre Sonia Bélanger, responsable des aînés. Marie, je te dis bon courage aussi à ta sœur Dominique. Merci d'être une aidante naturelle si aidante. Je t'embrasse. Bonne journée quand même, Marie. Viens.
Merci pour votre courage. Merci beaucoup. À bientôt.
Je voudrais remercier Jessica Giroux à la réalisation, la mise en onde, Marianne Bessette à la recherche. Et si ce que vous avez entendu ne vous révolte pas, en tout cas, moi, je suis révoltée. Tous les gens à Cube, on est absolument révoltés de cette situation-là. Donc, mettons tous nos efforts ensemble pour sauver les Dominiques du Québec.
Cube Radio.